Retrouvez Bouillon de Chartreuse, votre magazine d'infos locales sur RCC. Au programme, actions culturelles et éducatives, échanges, infos de proximité, environnement. Bouillon de Chartreuse, votre magazine qui aborde les sujets qui vous concernent.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Couleur Chartreuse, votre radio locale, dans cette émission consacrée à un été de théâtre en Chartreuse, deuxième saison, qui inclut le spectacle déambulatoire de la voix sarde, bien évidemment. Pour m'accompagner dans cette émission, Loïc Chou, acteur de la troupe des Passeurs d'Histoire, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là dans les studios du Grand Son. Et puis également Philippe Bulinge, auteur, metteur en scène de la compagnie Intersigne.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être là. Donc on va revenir sur cet été de théâtre en Chartreuse, effectivement, pour nous raconter un petit peu la naissance de cet événement, puisqu'on est sur la deuxième édition. Qui veut se jeter à l'eau pour nous expliquer un petit peu comment est née cette idée ?
Je vais m'en occuper.
Allez, vas-y.
Je vais m'en occuper. Alors, un été de théâtre en Chartreuse, effectivement, cet été, ça sera la seconde édition, puisqu'on a eu une belle édition 2025. Et en fait, c'est l'évolution logique du développement des passeurs d'histoire. En fait, les passeurs d'histoire sont, dans un premier temps, connus pour les spectacles sur la voie sarde et ont été sollicités à partir de 2019 par d'autres communes du territoire, par la communauté de communes Cœur de Chartreuse également, pour créer des spectacles en dehors de la voie sarde. On a commencé en 2019 et en 2021 avec la manifestation Trésor de Chartreuse, qui nous a permis de jouer des spectacles sur l'histoire de la Chartreuse. Et tout ça, cette énergie s'est poursuivie avec deux sollicitations de la part des fêtes de la Chartreuse. On a créé le spectacle Les Sept Étoiles ou Le Secret de la Liqueur. Et en 2024, une commande supplémentaire encore par d'autres communes de Chartreuse avec le spectacle 1944. Ils furent la flamme. Donc, nous avons pris l'habitude de nous représenter en dehors de la voie sarde. Et surtout, c'est le public qui a pris l'habitude de voir les spectacles des passeurs d'histoire en dehors de la voie sarde. D'où l'idée de dire, finalement, si on est un petit peu moins sollicité parce que les projets évoluent, etc., nous, on sait que le public est en attente de l'histoire de la Chartreuse, est en attente de spectacles historiques. Donc, on s'est lancé dans ce festival, un été de théâtre en Chartreuse, qui mélange les créations des passeurs d'histoire, voilà, étroitement liées à l'histoire de la Chartreuse, mais aussi des spectacles de ma compagnie professionnelle lyonnaise, la compagnie Intersigne, qui sont aussi des spectacles historiques, et puis des spectacles d'autres compagnies professionnelles qui ont en commun ce thème de l'histoire. Donc, un été de théâtre en Chartreuse, c'est un festival de théâtre historique.
Donc sur notre joli secteur de la Chartreuse, bien sûr. Alors, un projet assez ambitieux, il faut bien le dire, parce que ça mêle à la fois des professionnels et puis les associations comme les passeurs d'histoire. Donc ça fédère un certain nombre de personnes quand même.
Ah, bien sûr, oui, c'est un total. Suivant les éditions, on vise un total de 25 à 26 représentations. Voilà, espacé dans le temps, entre la fin du mois de mai et puis le mois de septembre, mais surtout sur tout le territoire. Voilà, pour irriguer ce type de spectacle et puis surtout cette histoire de la Chartreuse qui nous tient à cœur.
Et puis rendre le théâtre populaire et accessible au plus grand nombre sur notre joli secteur.
Voilà.
Alors justement, si on pouvait faire peut-être un bilan de cette première édition l'an passé, en 2025, quel regard vous avez là-dessus ?
Alors c'est un regard extrêmement positif, puisqu'on n'aurait pas fait une seconde édition sinon. C'est extrêmement positif parce qu'on a traversé un certain nombre de lieux, des lieux patrimoniaux, parce que c'est aussi une façon de mettre en valeur le patrimoine que de jouer dans des lieux qui racontent déjà leur propre histoire. On a réuni environ 3000 spectateurs pour un total de 24 représentations, en comptant la voix sarde, sachant qu'en plus la voix sarde a été un peu handicapé, un peu chaotique, voilà, cet été à cause de la météo, notamment. Donc, c'est une très bonne première édition pour un été de théâtre en Chartreuse. Surtout, cela nous a permis de rencontrer un autre public, notamment grâce à nos représentations du côté du Sapet et du fort du Mont-Saint-Énard, voilà, ouais. Où des Grenoblois sont venus. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les spectateurs suivent les spectacles des passeurs d'histoire, mais pas que, c'est-à-dire qu'ils font confiance, ils déposent leur confiance dans la programmation du festival en se disant on va vivre des bons moments, et on retrouve du coup les mêmes spectateurs sur plusieurs représentations.
Ça, c'est bien. C'est vrai que c'est devenu quasiment une marque, hein, ici, quand même, les passeurs d'histoire, un gage de spectacle de qualité. Donc, maintenant, les gens savent, ah bah ok, il y a les passeurs d'histoire qui vont jouer, on va aller voir. Voilà, limite, ils ne regardent pas forcément.
Oui, alors ça nous met un peu, ça nous met un peu la pression, parce qu'en plus, on cherche à ne pas se reposer sur nos lauriers. C'est-à-dire que pour les spectacles en dehors de la Wassarde, on essaye justement de ne jamais faire le même spectacle. Donc, on essaye d'explorer des registres très différents. C'est sûr que le spectacle 1944, il a une tonalité solennelle et grave qu'on ne retrouve pas dans l'Auberge Chartreuse, qui est plutôt une farce. Hein. Ça fait sourire Loïc, mais c'est une farce. Voilà, le spectacle en dehors de la Wassarde qu'on va préparer pour la seconde édition, il sera lui aussi dans un autre registre. C'est-à-dire que moi, en tant qu'auteur-metteur en scène, je veux faire vivre des aventures différentes à mes comédiens. Et du coup, on fait aussi vivre des aventures différentes aux spectateurs.
Alors du coup, il y a plusieurs spectacles, on l'a compris, par rapport notamment aux passeurs d'histoire. Les comédiens, ils sont répartis sur les différents spectacles. Ils ne jouent pas tous sur tous les spectacles.
Alors, ça dépend.
Ça dépend.
Il y a un noyau quand même.
Il y a un noyau dur, effectivement, ouais, qu'on retrouve dans tous les spectacles. Voilà, comme dit Loïc. En fait, c'est à la carte. C'est au début de la saison ou en courte saison, si les projets évoluent. Moi, j'envoie le même mail à tout le monde en disant, voilà, cette saison, on va faire tel spectacle, tel spectacle, tel spectacle. Qui veut en être ?
Oui, parce que c'est vrai que c'est un planning et tout ça.
Voilà. Mais en aucun cas, je dis, bah, toi, tu peux jouer, toi, tu ne peux pas jouer. C'est vraiment des créations qui sont faites à la carte avec le matériau principal qui est l'être humain, qui est le comédien. Donc, si j'ai 12 volontaires pour un spectacle à Fourvoirie, ben, je fais une pièce pour les 12 volontaires. Si j'en ai 24, je fais une pièce pour les 24.
Ah oui.
Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne au sein des passeurs d'histoire.
Bon, bah voilà, en tout cas, c'est une très belle chose à découvrir. Si vous ne connaissez pas l'été Théâtre en Chartreuse, nouveauté donc depuis l'an dernier, nouvelle édition pour cette édition 2026, la seconde. Et justement, il y a eu du coup des troupes l'an dernier aussi qui sont venues jouer hors passeurs d'histoire, j'allais dire, sur l'année 2025. Comment vous les avez trouvées, ces troupes ? Et puis, est-ce que l'idée, c'est peut-être de chaque saison changer justement pour apporter de la diversité ? Ou d'avoir justement une fidélité avec ses troupes ?
Alors, la fidélité, c'est un peu tôt, puisqu'on n'est que sur la deuxième saison.
Et dans le projet, je veux dire.
Voilà. La première année, ça s'est fait un petit peu sur une impulsion. Hein. C'est-à-dire qu'assez tardivement, on s'est dit, allez, on se lance dans quelque chose. Et puis là, ben,
voilà. Vous aviez déjà des contacts ?
Moi, j'avais des contacts. Hein. Étant lyonnais, voilà, j'avais déjà repéré un certain nombre de compagnies. Dans cette saison, on a fonctionné un petit peu différemment. L'idée, c'était de se dire que la programmation des compagnies professionnelles, elle pouvait se faire un peu de manière collégiale. C'est-à-dire que, voilà, moi, j'ai proposé, en fait, aux passeurs d'histoire de dire, ben voilà, moi, j'ai repéré tel et tel spectacle qui joue à telle date. Est-ce qu'on n'irait pas le voir ensemble pour valider, en fait, le choix ? Et les spectacles qu'on a choisis, ils ont tous été choisis avec ce modèle-là.
Ah, chouette !
Voilà, bon, ben. C'est-à-dire qu'il y a plus ou moins... voilà, alors, le seul qui a été vu que par deux passeurs d'histoire, c'est celui que nous allons jouer à Miribel. Autrement, les autres ont été vus à chaque fois par une douzaine de passeurs d'histoire, ce qui permet aussi d'assumer le choix, de pouvoir être le porteur du projet. C'est-à-dire, je l'ai vu, je vous le conseille d'aller voir parce ouais. qu'on l'a retenu pour ceci ou pour telle raison. Et voilà, les passeurs deviennent des passeurs de la programmation.
Et puis, c'est participatif, je veux dire, c'est l'inclusion aussi dans... finalement, la programmation, donc c'est bien aussi, hein, ce côté-là.
Exactement, parce que, en fait, moi, j'ai une grande expérience forcément du spectacle, c'est mon métier. Mais tous les passeurs ne vont pas au théâtre toutes les semaines. Donc,
ça a été l'occasion de sortir d'aller notre île lyonnais préférée bah, pour aller à la pêche.
Voilà, hein, d'aller à Lyon, voir des spectacles.
Et je suppose qu'il y a certains camarades qui n'avaient pas l'idée de venir, d'aller à Lyon voir des spectacles. Quoi. Je pense qu'on a ouvert ça a ouvert l'horizon à pas mal.
Exactement.
Ouais. Ouais, c'est ça l'objectif aussi.
Et ça nous, comme tu dis, ça nous inclut dans le système en étant notre propre programmateur.
Ouais, puis acteur finalement aussi de ce que vous proposez finalement et plus justement acteur dans le deuxième sens du terme du coup.
Ouais.
Mais
c'est ça, hein, c'est exactement ça. Hein. Ouais. C'est vraiment d'arriver à se dire voilà, on construit ensemble les choses. Alors bien sûr, il y a un moment donné, il faut arriver à trancher. Et on tranche avec des critères financiers, avec des critères de calendrier, avec des critères de logique, bien évidemment. Mais à un moment donné, il doit y avoir d'abord les coups de cœur. Et c'est les coups de cœur qui nous ont permis de créer le festival et de le poursuivre tant qu'on pourra le poursuivre. Après, il y a des réalités financières. Moi, je rêverais de faire venir des spectacles avec 10 comédiens, hein, mais on ne va pas y arriver. En tout cas, pas tout de suite.
Ça reste un objectif lointain.
Voilà, exactement.
Toujours une belle idée. Bon, bah, justement, on va en parler de ces différents spectacles dans quelques instants, dans la seconde partie de votre émission avec Loïc, avec Philippe. On se retrouve après une pause musicale. À tout de suite.
On enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens creusent des lits, font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes.
Et nous sommes de retour sur Radio Couleur Chartreuse, votre radio locale sur le joli territoire où nous sommes. Toujours en compagnie de Philippe et de Loïc pour cet été de théâtre en Chartreuse, deuxième édition. Alors, on a lancé la petite perche sur les différents spectacles, justement hors Voissarde. Et ben, on y retourne tout de suite avec le premier spectacle. Ça s'appelle Monsieur Paul. Ça va jouer les 5 et 6 juin, 19h, sur Fourvoirie, donc à Saint-Laurent-du-Pont. Donc si on peut en dire un petit mot de Monsieur Paul, cette fantaisie théâtrale, pourquoi ce choix d'écriture de cette icône, on va le dire, de la gastronomie française, Philippe ?
Alors vous avez dû comprendre que je suis lyonnais, oui. Voilà. Donc le travail que je fais sur la Voissarde ou avec les passeurs d'histoire est bien sûr centré sur l'histoire, donc l'histoire me passionne. Et donc sur les créations purement professionnelles de ma compagnie, je m'intéresse également à l'histoire. Et j'avais précédemment créé un spectacle sur Edmond Rostand, un autre sur Vivaldi, un autre sur Camille Claudel, et dernièrement un spectacle sur Napoléon, Napoléon, la nuit de Fontainebleau.
Et Jean Moulin.
Et Jean Moulin, voilà. Et bien évidemment, m'intéressant de plus en plus à des figures historiques et non pas artistiques, bah, je suis tombé sur Paul Bocuse, qui est un morceau de l'histoire de Lyon, bien évidemment, de la région lyonnaise, à tel point d'ailleurs qu'un jeu de mots circulait au sommet de sa gloire, que Collonges, c'était la ville qui était à côté de Lyon, ou plutôt Lyon était la ville qui était à côté de Collonges, au Mondeur. Voilà, donc d'où l'importance de ce personnage-là. Et puis surtout, en fait, je me suis intéressé à lui parce que je me suis rendu compte qu'on savait beaucoup de choses dans la construction du personnage, dans l'image qu'il voulait donner de lui. Et très souvent, en fait, quand on veut donner une image, c'est qu'on est en train de cacher quelque chose. Et donc, je suis parti à la recherche de ce qu'il cachait profondément. Et je suis tombé sur un parcours terriblement proche de ce que l'on peut vivre nous-mêmes dans notre histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas un extraterrestre, Paul Bocuse. Bien sûr que c'est un être de papier, c'est un être qui a utilisé les médias pour sa carrière, mais en réalité, c'est un homme profondément humain et qui est très, très proche, en fait, hein, de nous. D'ailleurs, nous, dans ce spectacle, Monsieur Paul, nous racontons les 40 premières années de sa vie. Hein. Nous sommes réduits à raconter ces 40 parce qu'autrement, le spectacle aurait été beaucoup, beaucoup trop long, parce qu'il a une vie qui nous touche et qui est très chargée. Hein. On a l'image, bien sûr, de cet homme qui réussit tout ce qu'il touche, mais son destin ne s'est pas fait d'un claquement de doigts. Et c'est un portrait assez édifiant qu'on fait, avec une enfance pas facile au bord de la Saône, à Collonges au Mondeur, puisque les parents de Bocuse ne roulaient pas du tout sur l'or. Il est né en 26, Bocuse, donc quand la guerre commence, il a 14 ans, il a 13-14 ans, son père part à la guerre. Commence à travailler en tant qu'apprenti dans les restaurants de marché noir. Enfin, on l'envoie à la campagne parce que le STO arrive. Finalement, il s'engage dans la première division de la France libre. Il a 18 ans, donc il est obligé de tricher sur son âge pour s'engager, mais il s'engage quand même. 15 jours plus tard, il est mortellement blessé, sauvé in extremis. Il y a tout ça qui derrière, forge le bonhomme. Et c'est ça qu'on raconte, en fait. Une relation privilégiée avec son père. Hein, l'essentiel de la vie de Bocuse, elle est dans la relation au père. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui l'ont côtoyé, beaucoup de ses amis, qui m'ont tous dit « Bocuse, même à 90 ans, parlait tous les jours de son papa. Voilà. » Et c'est ça qui m'a intéressé. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas dans la vie de Paul Bocuse. Et puis, il y a la figure du père. Et j'ai creusé. Et en fait, je vous raconte la vie de Paul Bocuse avec force détail, vérifié, voilà, vérifié.
Oui, c'est ça. Parce que hein, ça demande un travail de préparation, voilà, de vous feriez déjà dans les archives, etc., exact, mais aussi dans les rencontres.
Dans les rencontres, voilà, dans les rencontres. Hein, j'ai eu le plaisir de rencontrer beaucoup de ses proches, ouais, voilà, beaucoup de ses proches, certaines personnes de sa famille également, voilà, pour vérifier si finalement je n'étais pas moi-même en train de me faire une fausse image, hein, de Paul Bocuse. Et en fait, petit à petit, j'ai réussi effectivement à comprendre que c'était cette relation au père qui était capitale. J'espère que vous la verrez bien dans le spectacle.
Et l'écriture a été assez fluide, finalement, suite à toutes ces recherches et ces rencontres ?
Oui, oui, oui. Alors, bien sûr, c'est une pièce de théâtre, hein, c'est pas une biographie. Donc, il a fallu que je trouve le moyen narratif de vous raconter cette histoire. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'histoire que je vous raconte, je suis assez proche du bonhomme, même si on ne peut jamais être sûr à 100%, à tel point d'ailleurs que la famille l'a reconnu, puisque le spectacle que vous verrez à Fourvoirie a été joué à l'abbaye de Collonges, hein, c'est-à-dire au restaurant qui sert aux grandes fêtes à Collonges, dans le restaurant ancestral des Bocuse, pour le centenaire du restaurant. Donc la famille a vu le spectacle et a dit « il faut qu'on le joue au restaurant ». Et c'est ce spectacle-là qu'on va vous montrer.
Ça, c'est une belle consécration quand même d'être
validé. Alors, ça fait un peu peur, hein, ça fait un peu peur parce que autant quand j'ai créé mon spectacle sur Napoléon, si je me trompe, ça n'a pas beaucoup de conséquences, hein, puisque tous ceux qui ont connu Napoléon...
Il est mort en plus.
Voilà, il est mort. Et puis tous ceux qui ont connu Napoléon ne sont plus là pour dire « Philippe Hulin, je vous avais dit des bêtises ». Et là, c'est vrai qu'on se retrouve devant des... Il y avait 400 spectateurs, hein, dans l'abbaye de Collonges. Il y en avait bien 250 qui avaient croisé Monsieur Paul, hein, comme on l'appelait. Et notamment la petite fille Jacotte Brasier, la petite fille de la mère Brasier, qui est aussi une célébrité lyonnaise, qui a immédiatement à la fin de la représentation, puisque c'est un personnage, la mère Brasier du spectacle, a demandé à voir la comédienne, voilà, qui jouait sa grand-mère, hein, du coup. Et sur le coup, on a eu un peu peur, parce qu'on s'est dit, oh là là, est-ce qu'on a dit des bêtises, est-ce qu'on l'a mal représentée. Et en fait, la comédienne est devenue toute blanche, voilà. Et puis, en fait, non, elle a été très rassurée, parce qu'il y avait de l'émotion à voir qu'on était bien dans les bons pas et pas à côté de la plaque.
Bon, ça fait plaisir. Il y a combien de comédiens sur scène, d'ailleurs, pour Monsieur
Paul ? Alors, il y a 5 comédiens, plus un trompettiste.
Ah oui, en plus.
Voilà, plus un trompettiste. Et pour vous dire où j'ai poussé un peu le vice, je voulais retrouver visuellement l'univers de Bocuse. Donc le spectacle tourne autour d'un immense orgue de Barbarie. Hein. Bocuse collectionnait les orgues de Barbarie. Hein. Vous en trouvez un dans chacun de ses restaurants. Vous en avez un immense à l'abbaye de Collonges. C'était sa passion parce que ça le ramenait dans son enfance, l'orgue de Barbarie. Donc visuellement, on se retrouve avec l'orgue de Barbarie. Et puis au niveau musical, on se retrouve avec un univers qui a été validé par Paul Bocuse. C'est-à-dire que de son vivant, Paul Bocuse a commandé au compositeur Serge Folly, qui nous a fait la musique pour le spectacle, une symphonie. C'est-à-dire qu'il connaissait le travail de Serge Folly, il lui a demandé une symphonie. Donc pour moi, c'était évident que je devais prendre Serge Folly pour faire la musique. Et j'ai poussé le vice encore plus loin, puisque le trompettiste qui est dans le spectacle a participé à la création de cette symphonie, donc a déjà joué pour Paul Bocuse. Donc on est sûr d'avoir dans les oreilles un univers musical que Paul Bocuse aurait aimé entendre.
On note bien les dates, 5, 6 juin, 19h, sur le site de Fourvoirie, ancienne distillerie bien sûr, des Pères Chartreux à Saint-Laurent-du-Pont. Donc pour ce spectacle, c'est spectacle-voissarde.com pour la billetterie, pour prendre
tout ça. Et puis surtout le site théâtrechartreuse.fr.
Aussi, théâtrechartreuse.fr. On poursuit avec du côté de Miribel les Échelles, on se promène en Chartreuse, hein, hop, avec un autre spectacle, on a esquissé le titre tout à l'heure, ce sera le 20 juin, donc une autre date à mettre sur les tablettes, à 16h30 à la Priola à Miribel, c'est 1944, donc peut-être un rapide remise en contexte pour les auditeurs.
Oui, alors c'est peut-être Loïc qui va le faire, puisqu'il est aussi à l'origine de ce projet.
Ouais.
Ouais, modestement. Oui, donc ce spectacle, il avait été commandé pour les 80 ans du Maquis de Chartreuse. Donc, c'est l'histoire, au milieu de la grande histoire, c'est au niveau local, les gens qui ont eu des actes de résistance, qui ont eu le courage de braver, tous les maquisards qui ont pu se croiser au cercle de Saint-Même, toutes les actions, les parachutages, les réseaux franco-polonais de radio, il y a eu beaucoup d'actions sur le massif, mine de rien. Et donc, on a essayé de rassembler toutes ces anecdotes historiques pour faire une trame, y compris la déportation des enfants d'Isieux et de la Martelière. Et on a eu le plaisir de pouvoir encore le tourner, parce que c'est un spectacle qui nous tient quand même bien à cœur.
Oui, c'est un spectacle riche en émotions, hein, puisqu'on raconte, la vie d'hommes qui auraient pu être nos voisins 80 ans plus tôt.
Et des gens connus, quoi. Nous sommes tombés sur des gens qui avaient connu ces héros de l'ombre.
Bien sûr, tout à l'heure je parlais de la mère Brasier, de la petite fille de la mère Brasier, on a la même chose sur un certain nombre de scènes, hein, quand on raconte la journée du 19 juin 1944 à Saint-Laurent-du-Pont, les témoins viennent nous voir en nous disant effectivement ça s'est passé comme ça. En fait, on raconte tous les événements principaux qui se sont déroulés en Chartreuse entre le mois d'octobre 43 et puis le mois d'août 44. Voilà, hein, le mois d'août 44 avec les derniers événements qui se sont déroulés essentiellement du côté du tunnel des Échelles, puis après
le bombardement du cirque et l'embuscade
bombardement du cirque
aux Allemands,
tunnel des Échelles et les gorges de Chaille. Voilà. Hein, donc on fait le grand écart avec pas mal d'épisodes qui se déroulent aussi à Voiron. Voilà, on a voulu rendre hommage en fait à toutes ces femmes et tous ces hommes, et puis aussi parfois des très jeunes hommes et des très jeunes filles qui, par leur action, ont fait que la flamme a toujours brûlé en Chartreuse.
1944, et elles furent la flamme à découvrir cette fois-ci du côté de Miribel-les-Échelles à la salle La Priola, c'est la salle des fêtes, le 20 juin à 16h30.
Voilà, avec une représentation particulière. Hein, puisque l'idée, c'est quand même toujours de faire du sens, notamment avec ce spectacle-là. On est dans la transmission d'une histoire que les jeunes ne connaissent pas. Et du coup, on a 24 élèves de Miribel Les Échelles qui vont venir chanter un certain nombre de grands chants importants de l'époque, hein, le chant des partisans ou la complainte des partisans, ainsi que la chorale, la nouvelle chorale de Miribel qui va venir aussi partager avec nous ces chansons de la résistance. Donc vraiment un temps fort où il va y avoir notre spectacle et puis la participation des élèves de CM1 et CM2 et la chorale pour dire, voilà, en fait, on est en train de célébrer ensemble un moment de notre histoire.
Donc notez bien la date, voilà, à découvrir si vous n'avez pas déjà découvert ce spectacle, puisqu'il a déjà tourné un petit peu. Autre date à retenir, on va aller au mois d'août, le 8 août. À 19h, là, on va du côté de Saint-Pierre-de-Chartreuse. On est Miribel, hop là, on saute sur Saint-Pierre. Avec cette fois-ci un chanteur à l'honneur, auteur, compositeur, interprète, c'est Brel, voilà, par la Compagnie du Marcheur.
Oui, la Compagnie du Marcheur, le comédien s'appelle Julien Tiffaigne, qui est un grand comédien lyonnais, voilà, qui est passé notamment par le TNP hein, de Villeurbanne. Pourquoi Brel ? Ben, évidemment, Saint-Pierre de Chartreuse, ça rime avec Brel, hein, puisqu'on sait que Brel a eu pendant très longtemps un chalet hein, à Saint-Pierre de Chartreuse. Donc évoquer sa vie à Saint-Pierre de Chartreuse, ça faisait sens, parce qu'on est bien sûr dans la valorisation de cette histoire de la Chartreuse. Alors on est dans un autre registre que 1944, hein, bien évidemment, mais le personnage de Brel est un personnage qui est engagé, hein, qui n'est pas... qui a fait aussi de la poésie un acte politique, hein, comme des Brassens ou d'autres. Hein. On est sur cette génération
des chanteurs,
des Jean Ferrat, voilà, qui nous parlent du monde, et en nous parlant du monde, ils nous racontent comment ils pourraient devenir meilleurs. Voilà. Ce spectacle, ce n'est pas l'histoire de Jacques Brel. Ce spectacle, c'est un moment où on flirte avec l'âme de Jacques Brel à travers ses interviews hein, et quelques chansons, mais c'est vraiment... la parole, en dehors des chansons de Jacques Brel, quand il s'adressait aux radios, quand il avait des échanges, etc., qu'est-ce qu'il disait du monde ? Et en fait, on traverse cette parole au fur et à mesure du spectacle. On a l'impression de frôler l'âme de Jacques Brel, parce que c'est un homme qui disait toujours ce qu'il pensait. Voilà, donc quand on réécoute ce qu'il dit, ben, on est un peu plus proche de lui. Et pour Saint-Pierre de Chartreuse, c'est une figure centrale.
Donc le 8 août, 19h, à Saint-Pierre-de-Chartreuse pour découvrir ce joli spectacle Brel, la sueur et les rêves par la Compagnie du Marcheur, donc à découvrir là aussi hein, la billetterie. C'est sur théâtrechartreuse.fr.
Théâtrechartreuse.fr, on ne peut pas faire plus simple.
Ah oui, non, c'est sûr.
Voilà.
Bon, petite pause musicale, messieurs, si ça vous dit. Puis après, on se retrouve pour parler de cette nouvelle édition de ce spectacle sur la Voie Sarde, édition 2026. Allez, restez avec nous, on se retrouve après une pause musicale. À tout de suite.
Dans les jardins de mon père, les lilas sont fleuris.
Dans les jardins de mon père, les lilas sont fleuris.
Tous les oiseaux du monde viennent y faire leur nid. Auprès de ma blonde, il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, il fait bon dormir. Tous les oiseaux du monde viennent y faire leur nid. La caille, la tourterelle et la jolie perdrix. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. La caille, la tourterelle et la jolie perdrix.
La caille, la tourterelle et la jolie perdrix.
Et ma jolie colombe qui chante jour et nuit. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Et ma jolie colombe qui chante jour et nuit.
Et ma jolie colombe qui chante jour et nuit.
Qui chante pour les filles qui n'ont pas de mari. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Qui chante pour les filles qui n'ont pas de mari.
Qui chante pour les filles qui n'ont pas de mari.
Pour moi ne chante guère car j'en ai un joli. Auprès de ma blonde, il fait bon, fait bon, fait bon.
Auprès de ma blonde, il fait bon dormir.
Pour moi ne chante guère car j'en ai un joli.
Pour moi ne chante guère car j'en ai un joli.
Dites-nous donc la belle, où est donc votre mari? Auprès de ma blonde, il fait bon, fait bon, fait bon.
Auprès de ma blonde, il fait bon dormir.
Dites-nous donc la belle, où donc est votre mari?
Dites-nous
dans la belle, où donc est votre mari?
Il est dans la Hollande, les Hollandais l'ont pris. Auprès de ma blonde, qui fait bon, très bon, très bon.
Auprès de ma blonde, qui fait bon dormir.
Il est dans la Hollande, les Hollandais l'ont pris.
Il est dans la Hollande, les Hollandais l'ont pris.
Que donneriez-vous, belle, pour avoir votre ami? Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon.
Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir.
Donneriez-vous, belle, pour avoir votre ami?
Que donneriez-vous, belle, pour avoir votre ami?
Je donnerai Versailles, Paris et Saint-Denis. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon.
Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir.
Je donnerai Versailles, Paris et Saint-Denis.
Je donnerai Versailles, Paris et Saint-Denis.
Les tours de Notre-Dame et le clocher de mon pays. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon.
Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir.
Les tours de Notre-Dame et le clocher de mon pays.
Les tours de Notre-Dame et le clocher de mon pays.
Et ma jolie colombe pour avoir mon ami. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon.
Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir.
Et nous sommes de retour sur Radio Couleur Chartreuse, votre radio locale, dans cette émission consacrée à la deuxième édition d'un été de théâtre en Chartreuse, toujours en compagnie de nos deux invités, Philippe et Loïc, dans les studios du Grand Son à Saint-Laurent-du-Pont. Ça va toujours ?
Impeccable.
Bon, parfait. Troisième partie avec vous, messieurs, pour parler de ce nouveau spectacle 2026, du coup, sur la Voix Sarde. Ça y est, on va la retrouver, comme chaque année. Voilà, un bonheur à retrouver cette Voix Sarde, cette jolie Voix Sarde. Du 11 juillet au 23 août, 18h, donc pour ce spectacle qui s'intitule 1814. C'est Philippe qui va nous parler de ce spectacle, puisque c'est vous qui l'avez écrit, je crois.
Oui,
je crois. On reconnaît les tourneurs de texte. Mais...
Il n'y a pas une phrase d'IA dans ce texte-là.
Voilà
100%
intelligence humaine.
Voilà, intelligence humaine. Oui, 1814, effectivement, ce nouveau spectacle sur la Voix Sarde, qui est presque la suite historique du spectacle précédent, qui était sur la Révolution française. Hein. On sait bien que l'Empire a suivi cette révolution, est une transformation de cette révolution. Souvent, on me pose la question, mais comment vous faites pour trouver des sujets pour faire des spectacles sur la Voix Sarde? En fait, c'est la Voix Sarde qui nous le dit. Hein, c'est-à-dire que la Voix Sarde, c'est un lieu qui est suffisamment riche en histoire pour que finalement, quand on la traverse, on finit par toujours mettre le doigt sur un événement important. Et en fait, en 1814, il se sont passées des choses très importantes en fait, sur la Voix Sarde, voilà, qui sont... pas bien connu du tout. Voilà, il faut connaître un tout petit peu le nom des chemins du coin, du côté des échelles, du côté de Saint-Christophe, pour voir des traces. On a la montée des Autrichiens, par exemple. Alors, qui sont ces Autrichiens? D'où ça sort, etc. Donc, il y a un certain nombre de choses. Et en fait, effectivement, en 1814, le 31 janvier 1814, s'est déroulée une bataille sur la Voix Sarde. Voilà. Hein, donc, on n'est pas dans de la fiction. On est vraiment sur un événement historique qui va d'ailleurs être complété une quinzaine de jours plus tard par une bataille aux échelles. Hein, donc vous voyez que le territoire a été traversé par justement ces Autrichiens. Alors que viennent faire ces Autrichiens ici? Tout simplement, en 1814, on est sur la fin de l'Empire. Napoléon a été repoussé dans les frontières françaises. La France est envahie de toutes parts, hein, aussi bien du côté de l'Espagne que dans l'Est. Et la France est envahie également du côté des montagnes, avec une armée autrichienne qui est passée par Genève, puis Annecy, puis Aix-les-Bains, puis Chambéry, qui est arrêtée à Montmélian, hein, puisque Montmélian, c'était le passage pour l'Italie. Donc là, l'armée française a réussi à arrêter cette colonne autrichienne à Montmélian. Et donc, du coup, le virage à droite que doit prendre cette colonne autrichienne passe par la Voie Sarde pour rejoindre Lyon. Voilà, tout simplement. Et donc, le 31 janvier... les Français ont réussi à réunir quelques bribes de régiments. On a le 18e régiment de ligne, voilà, qui est là, mais juste un bataillon. Donc on a environ 500 soldats français, un peu désarmés, parce que tout le monde n'a pas de fusil, tout le monde n'a pas de balles, etc. Et qui doivent contrôler un territoire immense, puisqu'ils doivent aller jusque la montagne de l'Épine, enfin vraiment un ensemble de territoires, ils sont trop peu nombreux, et on a 4000 Autrichiens qui arrivent. Et pour la première fois, la Wassard va servir véritablement de champ de bataille, hein, puisque auparavant, les combats, il y avait déjà eu des combats, mais ils avaient eu lieu dans la plaine, entre les Échelles et Saint-Christophe, et là, c'est sur la Wassard qu'on va couper avec une barricade, qu'on va couper également un petit peu en prélude à ce qui va se passer en 1940, c'est-à-dire que les Français vont abîmer la Wassard pour que les canons et les chevaux autrichiens ne puissent pas passer. Voilà, c'est tout ça qu'on va raconter, notamment une question qui est centrale, puisqu'on est en Savoie. Les Savoisiens sont Français depuis 1792, et là se pose la question de la loyauté. Est-ce qu'on doit continuer à être avec les Français, ou est-ce qu'on va prendre les Autrichiens pour des libérateurs, parce qu'avec les Autrichiens arrivent les ducs de Savoie, voilà, qui reviennent. Donc c'est tout ce débat qui transpire dans la pièce, avec une histoire d'amour, bien évidemment, qui nous permet d'avancer. Oui. Voilà, il faut de l'amour, il faut de l'action, il faut de la vie, mais la question centrale, c'est ça, c'est je suis Savoisien, je dois être loyal à qui, à quoi. Est-ce que je vais garder ma loyauté en Napoléon, ou est-ce qu'au contraire, je vais souhaiter que les ducs reviennent? Et ce qu'on sait historiquement, c'est que notamment les paysans de Saint-Jean-de-Coux ont aidé les Autrichiens à trouver les chemins qui ont permis de traverser, parce que frontalement, la Wassard était bien protégée par ses 500 soldats français. Et les paysans de Saint-Jean-de-Coux ont aidé à trouver les chemins des contrebandiers. Pour que les Autrichiens tournent la Wassard.
Oui, contournent
la Wassard. Et donc, du coup, l'armée française va fuir. Et c'est uniquement quand l'armée française aura reçu des renforts qu'il y aura donc cette bataille le 15 février aux Échelles qui va repousser dans l'autre sens les Autrichiens. Donc, il y a eu l'aller et le retour.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Que d'histoire. En tout cas, là-dessus, 1814 à découvrir. Pareil. Ce travail de recherche a dû être assez intense, finalement, aussi.
Oui, il n'y a pas tant de sources que ça, mais heureusement, un monsieur, en 1880, a eu l'idée d'écrire un livre sur l'invasion de la Savoie en 1813-1814 et consacre 50 pages à l'affaire de la grotte. Voilà, donc très documenté, puisqu'il a réussi à avoir les courriers des différents généraux, etc. Donc, j'ai eu la chance de tomber sur ce texte-là qui décrit précisément ce qui s'est passé.
Alors, du coup, combien de temps au niveau de la préparation? Parce qu'après, hop, ça enchaîne sur les répétitions.
Alors, la recherche et l'écriture, c'est toujours entre 6 et 9 mois, à peu près. Voilà, entre le moment où moi, je commence à avoir l'idée en me disant, là, il y a matière à faire une belle pièce sur la jeunesse qu'on envoie faire la guerre et qui en même temps aspire à d'autres choses, et le moment où on rentre vraiment en répétition, il y a entre 6 et 9 mois pour que je puisse présenter un texte, voilà, et ensuite bien sûr il y a les répétitions qui ont commencé à partir de début mars.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Et il y a ça aussi qu'on va souligner, c'est vous faites aussi attention, est-ce que ça s'adresse aussi à un public assez familial?
Ah, bien sûr, bien sûr.
Ça aussi, c'est important.
Bien sûr. En fait, à partir du moment où on raconte l'histoire d'un territoire, on raconte l'histoire des gens de ce territoire. Et parmi ces gens, vous avez des personnes qui sont identifiées. On a le général Barral, par exemple. Voilà, c'est le général français qui est là. On a le général Bubna, hein, autrichien. Voilà, bien sûr, on a ces grands noms. Mais il y a monsieur et madame tout le monde, les soldats français qui étaient chargés de garder la Wassard, dormaient chez l'habitant, donc dans des familles, avec des enfants, avec des vieillards, avec des jeunes filles, avec des jeunes hommes, etc., la conscription, tout ça. Donc en fait, on raconte l'histoire de toute une génération qui a vécu en 1814, et donc pour pouvoir raconter toute cette génération, il faut qu'on soit accessible à la génération d'aujourd'hui. Donc aux enfants qui vont s'intéresser peut-être à la partie à aventure, et puis peut-être ceux qui connaissent un peu mieux l'histoire, s'intéresser à cette question de la conscription, à cette question qu'est-ce que ça veut dire être savoisien, qu'est-ce que ça veut dire être français, parce que se jouent beaucoup de choses d'aujourd'hui encore dans ces histoires-là. Donc chacun, en fait, trouve une lecture, non pas à son niveau, mais en rapport avec son centre d'intérêt.
Alors justement, je prends la perche tout de suite, puisque au niveau des acteurs, des comédiens amateurs. Il y a pas mal de jeunes, apparemment, c'est ça, qui sont venus, vous me disiez, avant de...
On a pu racheter les troupes cette année. Ouais,
ouais, c'est ça. Donc, racontez-nous un petit peu l'arrivée de ces nouveaux.
Bah, les gens qui sont venus, bah, c'est du bouche à oreille, je suppose.
C'est de bouche à oreille, c'est ouais. Des spectacles.
Je crois qu'Élise en a amené plusieurs.
Oui, a amené ses copains. C'est généralement comme ça, hein, c'est-à-dire...
C'est... Voilà. Ils ont envie de faire cette expérience-là. Parce que bon, c'est aussi le principe de fonctionnement de la troupe, que d'accueillir toutes les bonnes volontés, quelles qu'elles soient.
Ah oui, sans sélection, hein, je le répète. Il n'y a pas de sélection chez les passeurs d'histoire.
Mais c'est vrai que quand il y a des jeunes, nous les un petit peu moins jeunes, ça nous booste un peu. C'est toujours
apportent...
un plaisir d'avoir ils nous tirent vers le haut parce qu'ils nous obligent à être aussi...
Oui.
Énergique, que...
énergique, et puis ouais. Énergique, et puis l'envie d'être là, puisqu'on force personne, hein, oui, ça c'est sûr, ça. Hein, c'est ce qui est bien avec les bénévoles, hein, ouais. C'est que
c'est un choix.
C'est un choix, donc il y a de l'enthousiasme, il y a la volonté de bien faire.
On a autant de gars que de filles.
Oui.
Grosso modo, on a une certaine parité.
Voilà, une certaine parité homme-femme, aussi bien chez les jeunes que chez les plus anciens. Alors ce sont des jeunes qui viennent par goût, voilà, qui s'attendent pas à ce que ça soit aussi, ça demande autant d'énergie, voilà, parce que c'est vrai que du point de vue du théâtre, on progresse tous les ans, voilà, on progresse tous les ans. Là, on va vers un système où les professionnels ont de moins en moins de rôles clés dans les histoires, parce que justement, il y a toute cette dynamique qui a été créée et qui fait que d'une année sur l'autre, les comédiens progressent tous.
Oui, parce qu'il y a un noyau dur de comédiens. En plus, Loïc, vous en faites partie. Voilà, vous êtes quand même là depuis un bon moment maintenant, bien installé, même s'il y a l'accueil de nouvelles personnes tous les deux ans, parce que le spectacle est sur deux ans.
Oh, non, on accueille même entre.
Même entre
oui.
Okay. Donc il y a ça aussi, c'est la richesse de la chose, c'est d'accueillir des nouveaux en même temps, qui rejoignent un peu cette famille, finalement. C'est un peu cet esprit-là.
Hein. Ah ben, complètement, oui. Nous accueillons avec plaisir, en plus, et on est un peu là pour ça. On accepte donc tout le monde, toutes les bonnes volontés. Et c'est vrai que quand on les voit arriver, bon, on se dit, off. Et de plus en plus jeunes, on se dit, off. Il va falloir encore faire plus.
Oui, il va falloir faire plus parce qu'effectivement, ils arrivent avec leur force et leur énergie. Hein. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. C'est une très bonne chose. Hein. C'est une très bonne chose. L'idée, c'est aussi de faire que l'expérience des spectateurs soit sans cesse renouvelée. Là, par exemple, on est sur un spectacle où on a modifié... Alors, il y a des raisons de sécurité, parce qu'on est dans un lieu naturel donc, qui vit. Hein. Mais on a modifié un peu le parcours pour pouvoir justement renouveler l'expérience, rajouter plus de choses entre les scènes, pour que, c'est-à-dire que nos fidèles spectateurs se disent « j'ai eu raison de venir encore une fois ici ». Ce qui est certain, c'est que moi, en tant qu'auteur-metteur en scène, je me régale parce que je me retrouve devant 35-36 comédiens amateurs, à peu près, qui en veulent et qui, en même temps, sont capables de faire de très, très bonnes choses. Et c'est un régal parce qu'autrement, dans le monde professionnel, on ne peut jamais avoir autant de personnages. Et là, on a autant de soldats qu'on veut, autant de jeunes femmes qu'on veut, autant de paysans qu'on veut, c'est royal.
Oui, c'est une autre façon d'aborder aussi le théâtre. Alors, c'est un mélange, il y a quand même deux nouveaux comédiens professionnels cette année.
Oui, il y a deux nouveaux comédiens professionnels. On savait en fait d'emblée qu'on allait raconter quand même une histoire de soldat, puisque voilà. Donc, nos deux comédiennes précédentes, Caroline et Charlotte, avec toute la bonne volonté, ne pouvaient pas jouer des jeunes conscrits de 20 ans. Donc nous avons recruté deux jeunes comédiens que vous avez déjà vus l'an passé dans le spectacle D'Artagnan 1886 qu'on avait joué à Fourvoirie dans le cadre de la saison. Donc ces deux jeunes comédiens lyonnais qui apportent leur énergie, leur enthousiasme aussi.
Et qu'on découvre l'univers de troupe amateur un petit peu aussi.
Oui, ils avaient déjà... Alors ils avaient dû, eux, déjà jouer en amateur, mais en tant que jeune professionnel, puisque le plus jeune a 21 ans et l'autre a 25 ans, c'est la première fois qu'ils côtoient des amateurs dans de telles circonstances.
Et ça les nourrit aussi, ça.
Et ça les nourrit profondément parce qu'en fait, il faut qu'ils soient, eux, au rendez-vous, c'est-à-dire... qu'eux jouent bien, mais qu'eux soient aussi là pour épauler les comédiens amateurs, pour résoudre les problèmes quand les problèmes se posent. Et Dieu sait que dans le spectacle vivant, il y a des problèmes. Donc, à l'instant T, il faut qu'ils soient capables d'intervenir.
De rebondir et tout ça.
Et en même temps, l'idée, c'est aussi ce qui fait la force des spectacles des passeurs d'histoire, c'est qu'on ne voit, qu'on ne les voit pas trop. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'il y a une espèce d'homogénéité aussi des différentes scènes, de telle sorte que, bah, que l'expérience théâtrale soit une expérience complète pour le spectateur et pas « Ah bah là, il y avait une scène de pro, c'était super, là, c'était moins bien, mais comme ceux des enfants, c'est pas grave. » Non, c'est pas ça qu'on veut. C'est qu'on veut que, du début jusqu'à la fin, les spectateurs assistent à une vraie représentation théâtrale.
Ouais, d'année en année, je pense que c'est bien réussi moi, pour être venu les voir, en tout cas.
Merci.
Et je reviendrai cette année aussi.
Vous écoutez des musiques des années 80 à aujourd'hui avec Radio Couleur Chartreuse.
Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes.
L'ennemi, c'est toi, puis moi. Le pire, c'est toi et moi.
Vous êtes sur Radio Couleur Chartreuse.
Du coup, Loïc, petite question, parce qu'on l'a dit, vous êtes comédien dans ces passeurs d'histoire. Il y a quand même 12 dates, plus les autres spectacles hein, dont on a parlé, que vous faites voilà,
plus
durant l'année.
Les répétitions.
En plus les répétitions, tout ça. C'est quoi votre secret pour tenir cela durée?
Très bonne question. l'habitude, peut-être, c'est aussi une discipline, c'est beaucoup dire. Mais c'est une façon de remplir son année.
Se retrouver, c'est ce côté-là aussi.
C'est le côté plaisant de se retrouver avec les camarades, oui.
Ouais.
Ça, c'est la base. Si on s'ennuie avec quelqu'un, ce n'est pas la peine de s'ennuyer à plusieurs. Autant s'ennuyer tout seul. Mais on y arrive. Ben, à la limite, cette question, on aurait peut-être mieux la poser à notre ancêtre, parce que lui, il a passé un certain âge, mais il a toujours la même envie, la même... Ça devient une passion, ouais. À force de pratiquer. Sinon, c'est pareil, on ne pratiquerait pas autant si... C'est quelque chose qui nous prend, on est content de le faire. J'avoue que la pause hivernale est parfois relativement bienvenue, parce que quand on a répété depuis le mois de mars et qu'on a tiré les jeux jusqu'en septembre, octobre,
oui.
Bon, on a donné un maximum, on a donné nos week-ends, Qu'est-ce qui nous permet de tenir? Ben, c'est ça, c'est l'envie, c'est la passion, le plaisir d'être avec ces personnes.
Enfin, Loïc est modeste, hein, mais il y a aussi la satisfaction du travail bien fait. Qui fait qu'il y a une immense fierté que rendent les spectateurs.
Oui.
Parce qu'il y a ça, hein. Il y a le côté quand même, j'ai réussi à me dépasser. Hein. J'ai réussi à me dépasser et les retours, je les prends en pleine figure parce que les gens applaudissent. On n'a pas beaucoup l'occasion dans la vie de tous les jours de se dépasser ou d'être dans une situation de se dépasser. Puis en plus d'avoir la récompense immédiate et gratuite, hein, puisque les gens, quand ils viennent vous voir en vous disant j'ai adoré, alors parfois ils viennent nous voir en nous disant oh, bah, ça, j'ai. Voilà, mais c'est normal puisqu'il faut bien qu'on progresse. Mais l'expérience, elle passe aussi par la fierté qu'on a du résultat final. C'est pour ça que j'essaie, dans la mesure du possible, de proposer à chacun quand même une expérience personnelle, individuelle dans la pièce qui lui permet de progresser, qui lui permet d'avancer. Voilà, dans la mesure du possible, il y a ces trajectoires-là. Il y a ces trajectoires-là. Tu as réussi à faire ça l'an dernier, ben, cette année, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans ce domaine-là.
Ouais, pour challenger un peu.
Bien sûr. Hein, pour continuer à alimenter cette machine à fierté, voilà, qui permet d'expliquer voilà, pourquoi on passe autant de temps. Hein, alors, Loïc, il fait partie du noyau dur, alors il est là à toutes les dates. Certains passeurs, on le sait d'emblée, ont des binômes, hein, c'est-à-dire qu'ils se partagent les dates. Voilà, surtout chez les plus jeunes. Hein. Oui. Les plus jeunes sont souvent tributaires des vacances des parents, ce genre de choses. Donc là, on sait d'emblée qu'on a des binômes à faire, et puis une fois qu'on a trouvé les binômes, qu'on a notre roulement, bah, ça fonctionne. Hein. Mais ça permet à chacun de trouver sa place. Mais on a quand même tendance à se rendre compte que les binômes ont tendance à se réduire, c'est-à-dire que quelqu'un va commencer petitement en jouant la moitié des dates, puis la saison d'après, oh ben non, finalement, je suis là tout l'été. Hein, ouais. Voilà.
Il y a l'envie aussi de ça.
Il y a l'envie. Hein,
mais c'est aussi ce travail de metteur en scène, Philippe, de voir le potentiel de chacun, parce que quand vous écrivez, on l'a dit tout à l'heure, vous écrivez et ben voilà, en fonction, c'est vraiment à la demande, s'il y a 30 comédiens, il faut que j'écrive pour les 30 et que je leur donne un rôle à chacun, à la hauteur
dans
de
la
ce
mesure
qu'ils font,
dans la mesure du possible. Possible. Dans la mesure du possible.
C'est tout un travail aussi.
Parce qu'il faut pas, voilà, il faut pas oublier le spectateur aussi. Hein.
Et oui.
Voilà, hein, parce que
c'est un métier.
C'est un métier. Puis je pense aussi, certains passeurs adoreraient que je fasse des spectacles de 5 heures. Hein. Voilà, mais y a un principe de réalité quand même qui fait que déjà au bout de 2 heures, avec la montée de la voix sarde, ouais, certains spectateurs sont fatigués. Certains comédiens sont très fatigués, mais...
Oui, pensez aux spectateurs aussi.
Oui, oui, parce qu'il faut savoir qu'en tant que comédien, c'est assez sportif. C'est assez sportif parce qu'il y a l'envers du décor, hein. C'est quand on fait partir, imaginons deux paysannes qui gravissent la voie sarde, c'est pour vite se dépêcher pour aller se préparer pour la scène suivante. C'est pas la balade, hein. Donc c'est la balade pour les spectateurs, mais pas pour les comédiens. Hein. Donc ça, ouais, court dans tous les sens. Hein.
C'est vrai.
Ça court
et la voie sarde est plus raide chaque année.
Oh, oui, ouais. Et il se passe un phénomène géologique étrange.
Ça doit ramener tous les hivers.
Oh, ouais, c'est que la voie sarde est de plus en plus difficile à gravir. C'est étonnant, hein. Parce qu'on n'en parle pas dans les journaux, mais ça, c'est un fait historique.
Et avéré. En tout cas, voilà, ce spectacle d'une durée de 2 heures. Billetterie du spectacle, donc là, pareil, sur le même site que tout à l'heure. Parking de la Chapelle, donc il faut prévoir d'arriver une demi-heure avant, donc 17h30, puisque les spectacles sont à 18h. Donc voilà, une demi-heure avant le début du spectacle, c'est bien. Attention aussi, prévoyez vos vêtements, voilà, que ce soit si vous avez un kawé ou quelque chose en fonction de la météo, des bonnes chaussures, puisque on vient de le dire, ça grimpe, donc on évite de venir en tongue.
Oui, bah, ça arrive toujours, hein. Voilà. Les gens se posent des questions, ils regardent les collègues là, qui ont les chaussures un peu fermées, un cheveu mâche, et puis ils se disent oh, « je ne vais jamais y arriver avec mes tongs ». Ah ouais, mais on fait comment? On n'a pas de prêt de chaussures.
Prêt,
voilà,
de tongs sur place, ouais. Non, et puis accessible, alors ce n'est pas accessible effectivement au fauteuil roulant, etc. Mais il y a quand même une chose qui est mise en place, on va le dire, pour une date, c'est celle du 1er août, je crois. Donc voilà, pour les personnes en situation de handicap.
Ça sera la troisième année. C'est ce que nous, on appelle l'opération Joëlette. C'est avec une association de la Tour du Pin. Effectivement, on a le regret depuis des années de se dire que tout le monde ne peut pas profiter de l'aventure de la voie sarde. C'est aussi pour ça qu'on fait les spectacles en dehors de la voie sarde, parce qu'on sait qu'on peut plus facilement toucher les personnes à mobilité réduite sur d'autres sites. Mais là, quand même, sur la voie sarde, il y avait une immense frustration et on s'est dit, mais pourquoi ne pas profiter des joëlettes pour justement véhiculer des personnes qui ne pourraient pas. Et donc, c'est une opération qu'on a mise en place il y a déjà 2 éditions, donc maintenant, ça va être la 3e année. C'est le 1er août, donc il y aura un certain nombre de joëlettes qui seront mises à disposition. Il y aura déjà des gens pour tirer les joëlettes, tout ça. Nous, on s'occupe de tout. Par contre, ce qui nous manque, ce sont des volontaires pour être transportés dans les joëlettes. Donc, avis, voilà, si dans votre entourage ou si vous-même, vous avez envie de découvrir la voie sarde, mais que vous ne vous sentez pas du tout capable de gravir la voie sarde, eh bien, contactez l'association et on verra ce qu'on peut faire pour vous.
Donc, n'hésitez pas, voilà, pour cette belle proposition. Alors, on est pris un peu par le temps, j'avoue. Donc, on va se retrouver dans une 4e et dernière partie un peu plus courte pour évoquer 1, 2, 3 spectacles. Voilà, donc après la petite pause musicale que voici très vite promis. Et on se retrouve dans un instant. À tout de suite.
Call on me, and I'll send it along with love from me.
nous sommes de retour sur Radio Couleur Chartreuse, votre radio locale, dans cette dernière partie pour cette émission d'un été de théâtre en Chartreuse, toujours en compagnie de Loïc et de Philippe. Et quatrième dernière partie pour parler de trois spectacles. Alors il y en a deux, on va survoler un petit peu et s'attarder plus sur le troisième spectacle. Donc déjà, le premier spectacle, ça va être du côté de Miribel Les Échelles à La Carrière au mois d'août. C'est 2081, quand j'aurai 100 ans.
Voilà, le 14 août à La Carrière. 2081, quand j'aurai 100 ans, c'est un spectacle d'Aurélien Delceau, de la compagnie L'Arbre. C'est une compagnie du nord du Dauphiné. Alors, dans notre thématique de théâtre historique, c'est un petit pas de côté. C'est simplement quelqu'un qui se dit, ben voilà, quand j'aurai 100 ans, comment va être le monde? Donc, c'est un peu de l'histoire à l'envers, hein. Voilà, est-ce que le monde aura changé? Comment on peut encore le faire changer? Voilà, c'est de l'histoire à l'envers, mais qui est très intéressante, surtout très bien jouée. Aurélien a une très belle écriture. C'est en plus un choix qui est fait par la compagnie, mais par nous aussi, d'avoir une jauge très restreinte pour justement être très très proche du comédien et profiter particulièrement de l'échange. Donc c'est un spectacle, voilà, à La Carrière de Miribel. En plus, c'est un cadre qui est magnifique.
Ouais, c'est un bel endroit.
Qui est très particulier. Là aussi, il faut un peu marcher.
Oui. Hein,
ça se mérite, mais c'est magnifique. Et puis ensuite, on aura un spectacle le 6 septembre. Sur De Vos,
oui.
De Vos Rêvons de mots, par Damien Gouy et Ben Kerotret. Donc c'est une évocation effectivement non pas de la vie de De Vos, mais d'un certain nombre de sketchs qu'ils ont manipulés pour les faire s'enchaîner.
Enfin, Ils ont fait un dialogue,
ah, c'est oui. Très intéressant, c'est très drôle, c'est à la fois en musique et en texte, deux comédiens qui sont formidables, très talentueux. Damien Gouy, qui joue donc l'un des deux personnages, vous l'avez déjà vu dans le Jean Moulin l'an dernier, dans le spectacle d'Artagnan. Puis là, vous le verrez, c'est lui qui joue Paul Bocuse. Voilà, donc vous le verrez en Paul Bocuse et en De Vos cette année.
Bon, bah top. Et on termine avec le mois de septembre, avec Histoire de Fourvoirie.
Voilà, bah ça va être la nouvelle création hors voissarde des passeurs d'histoire. C'est un échange, en fait. Hein. Ça fait déjà plusieurs journées du patrimoine que nous jouons des spectacles à Fourvoirie et d'autres spectacles. Et donc, avec les ouvriers, ça se passe bien entre les passeurs d'histoire et les ouvriers de Fourvoirie. Beaucoup de passeurs d'histoire sont tombés amoureux du site de Fourvoirie. On sent bien que les ouvriers font un travail qui est formidable sur le site. Nous essayons de les aider le plus possible. Et en dialoguant avec eux, bah voilà, ils ont émis le souhait qu'on consacre un spectacle vraiment à l'histoire du site, voilà, du moment où il est devenu une distillerie jusqu'au moment, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, hein, alors qu'ils s'en occupent depuis à peu près maintenant 40 ans, hein, quelque chose comme ça. Hein, voilà, donc ils font partie eux-mêmes de l'histoire du site. Donc les 11, 12 et 13 septembre, nous allons créer un spectacle un peu différent des autres spectacles des passeurs d'histoire, parce qu'on va essayer vraiment de mettre le site en valeur. Donc c'est un spectacle qui va se dérouler à la nuit tombée, avec quelques projections vidéo, de la lumière pour mettre en valeur le site. Et nous, on va vous raconter son histoire. Voilà.
L'occasion de les mettre à l'honneur.
Exactement.
Un beau spectacle à découvrir donc les 11, 12 et 13 septembre. À noter sur vos tablettes.
Exactement. À Fourvoirie.
Théâtrechartreuse.fr pour la billetterie de tous les spectacles dont
voilà.
On a parlé.
Les billetteries s'ouvrent au fur et à mesure. Hein, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas toutes les billetteries qui sont ouvertes, mais vous avez largement le temps.
Oui, voilà.
Voilà.
Mais tardez pas trop quand même quand on approche de la date, parce que ça part vite.
Ah oui, oui, à un moment
c'est
donné,
ça.
Oui. Mais tant mieux.
On va se laisser piéger. Bon, bah, merci beaucoup à tous les deux d'être venus ici dans les studios.
Avec plaisir.
C'est toujours très bien. Voilà.
Ben oui.
On est très heureux
de pouvoir en parler de ces différents spectacles culturel sur notre joli territoire tous les étés aussi, grâce à vous. Ça bouge beaucoup et c'est très apprécié, on l'a dit tout à l'heure, hein, spectacle très très attendu. Donc merci beaucoup Loïc, qui est donc comédien, voilà, dans les passeurs d'histoire, qu'on retrouve sur différents spectacles. Et puis Philippe Bulin, le metteur en scène et écrivain aussi de tous ces spectacles.
Merci à vous.
Au revoir. Bonne journée et puis bel été.
Bon, on va essayer. Hein.
Ouais,
bon spectacle.
On va y arriver,
si la météo est avec nous. Voilà.
Il n'y a pas de raison.
Allez.
Merci, messieurs. Et puis, vous, mes auditeurs et auditrices, merci de nous avoir suivis. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast très vite sur radiocc.fr.
Retrouvez Bouillon de Chartreuse, votre magazine d'infos locales sur RCC. Au programme, actions culturelles et éducatives, échanges, infos de proximité, environnement. Bouillon de Chartreuse, votre magazine qui aborde les sujets qui vous concernent.